Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, dimanche. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Ces auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal, suivi la mise au point de la semaine, et puis aujourd'hui dans l'histoire, les nouvelles de l'Indonésie. Et puis pour conclure notre information aujourd'hui, écoutez le rappel des titres de l'actualité. N'oubliez pas, nous avons les rubriques hebdomadaires qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Écoutons maintenant les journaux aujourd'hui.
South Indonesia, Phil Anber.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la Radio République Indonésie de la Voix de l'Indonésie. Voici le journal d'aujourd'hui. L'Indonésie essaie d'éliminer les obstacles du commerce non tarifaire en Afrique du Sud. La résolution de la pomme de l'UE n'a pas interrompu le commerce. L'ASEAN plus 3 renforce la défense de l'économie de la région. Et voici le journal complet. Les produits indonésiens qui vont aux pays de la région de l'Afrique du Sud rencontrent souvent des obstacles tarifaires et non tarifaires. Par conséquent, dans un proche avenir, l'Indonésie envisage de discuter de la question avec les pays de la région d'Afrique du Sud. Cela a été présenté par l'ambassadeur d'Indonésie en Afrique du Sud. En même temps, le royaume du Lesotho, le royaume du Swaziland et la République du Botswana, Suprapto Marto Sutomo, à la RRI La Voix de l'Indonésie, à Jakarta, vendredi, le 5 mai. L'ambassadeur Suprapto Marto Sutomo a ajouté que les produits indonésiens qui vont aux pays de la région d'Afrique du Sud aujourd'hui sont de plus en plus divers. Mais le produit dans son ensemble est encore dominé par des produits huile de palme brute, qui est suivi par des produits alimentaires. La résolution de la pomme émise par le Parlement européen ne sont pas considérées comme une intervention du commerce de pommes brutes de l'Indonésie vers l'Europe. Le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, a souligné vendredi que la résolution du Parlement européen était une déclaration politique et elle n'a pas interféré le commerce de l'huile de palme entre l'Indonésie et l'Europe. Airlangga Hartanto l'a dit après une rencontre avec l'ambassadeur européen en Indonésie et Brunei Darussalam, Vincent Guérin, vendredi à Jakarta. Pendant ce temps, le directeur général de la sécurité et le développement de la zone industrielle d'accès international du ministère de l'Industrie, Haryanto, a ajouté que l'Union européenne va faire une étude sur la déforestation. À cet égard, le gouvernement indonésien a demandé à l'UE de considérer le statut de l'Indonésie en tant que pays archipélagique dont 70% du pays est la zone maritime et que l'Indonésie a également donné suffisamment d'oxygène pour le monde. Les pays membres de l'ASEAN avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud ou la région de l'ASEAN plus 3 ont promis la résilience économique en poursuivant les réformes structurelles de l'économie et mettre en œuvre la politique macroéconomique étant efficace. Le gouverneur de la Banque d'Indonésie à la réunion de l'ASEAN plus 3 à Yokohama au Japon, vendredi, a annoncé la coopération financière de l'ASEAN plus 3 dans la région pour faire face aux risques de l'économie mondiale, tout en renforçant le système commercial et de l'investissement. Les pays d'ASEAN plus 3 continuent d'être conscients du risque de l'économie mondiale, qui est encore incertaine en raison de tendances protectionnistes, les risques géopolitiques et des changements de la politique monétaire, en particulier dans les pays développés. Il a été annoncé par le gouverneur de la Banque d'Indonésie, Agus Martowardoyo, dans un communiqué à Jakarta vendredi. Il a ajouté que l'ASEAN plus 3 a mis également l'accent sur l'utilisation de tous les outils politiques, soit monétaires, budgétaires ou structurels, afin de promouvoir une croissance durable, équilibrée, inclusive et d'améliorer la résilience économique et financière. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore dans la rubrique « La nouvelle de l'Indonésie » qui vous présente des diverses informations intéressantes hebdomadaires à travers de l'Indonésie. La première nouvelle vient de Yogyakarta. La zone touristique du Smart Park de Yogyakarta augmentera après que le gouvernement de Yogyakarta et l'ambassade française et l'Institut français d'Indonésie ont signé un commun accord pour construire une miniature de Tour Eiffel sur cette place. Le fonctionnaire gouvernemental de Yogyakarta, Sulistio, lors de la signature de l'accord avec l'ambassade française à Yogyakarta jeudi dernier, a dit qu'à l'avenir, cette zone permettrait d'élargir la connaissance des visiteurs sur la Tour Eiffel. Les visiteurs, qui sont en majorité des étudiants, peuvent étudier la tour en détail, y compris l'histoire et la structure de la tour. Sulistio espère également que cet accord pourrait renforcer les bonnes relations de travail entre l'Indonésie et la France, en particulier avec la ville de Yogyakarta. La convention collective a été signée par Sulistio avec l'ambassadeur français en Indonésie, Jean-Charles Bertonnet. Dans la nouvelle zone qui occupe le deuxième étage d'un immeuble carré du Smart Park, il y aura la miniature de la tour ayant une hauteur de 2 mètres avec un diorama des feux d'artifice, la biographie de Gustave Eiffel comme le fondateur de la tour Eiffel, l'histoire de la construction et le photomaton pour prendre des photos afin que les visiteurs se sentent comme s'ils étaient actuellement à la tour Eiffel. La nouvelle suivante vient de Bandung, Java West. Le festival de batik et broderie et le tissage national 2017 a eu lieu à Graha Mangala Siliwangi à 3 jusqu'au 5 mai 2017. Lors de cet événement annuel, il y avait aussi des artisans de pierres précieuses et des créateurs de vêtements. Desai Safitri, comme l'organisateur, a dit que l'Indonésie est un pays riche en diversité culturelle comme l'art du batik, la broderie et le tissage. Pour plus d'introduire et d'accroître l'appréciation du public des produits locaux, Maxindo, en collaboration avec Krishna Studio, tient un festival des broderies et du tissage Batik Nusantara 2017. Selon Desai, cet événement est une forme de dévotion à la culture, ainsi que de trouver des talents créatifs de batik, la broderie et le tissage de l'archipel. On espère qu'avec cet événement, le batik, la broderie et le tissage indonésien peuvent continuer à être conservés afin qu'ils ne soient plus reconnus comme des œuvres originales d'autres pays. Ce festival sera également rempli des défilés de mode, des talk shows, des démonstrations et des ateliers, des spectacles traditionnels et d'autres divers concours. La dernière nouvelle vient de Jakarta. Islamic Book Fair 2017, qui a eu lieu du 3 au 7 mars à JCC Senayan, Jakarta, a montré 20 000 de titres issus de plusieurs maisons d'édition. Le président du comité d'exposition du livre islamique, Mahmoud Anis Baswedan, à l'ouverture de l'exposition mercredi, a dit que les livres sont très divers. Des livres pour enfants, adultes, fiction, biographie et plus de 310 éditeurs. Le président d'ICAPI Jakarta, Hikmat Karunia, a déclaré que l'exposition devrait encourager la lecture publique en Indonésie, parce que la lecture peut créer un être humain supérieur qui jouera un rôle dans la civilisation. Chers auditeurs et auditrices, voilà la nouvelle de la semaine.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie à l'édition du 7 mai. Nous allons commencer au 7 mai 1915, un sous-marin coule la Lusitania. Le sous-marin allemand U-20 torpille le paquebot britannique Lusitania, en provenance de New York au large de l'Irlande. Le bateau coule rapidement et sur les 1959 passagers, 1198 dont 128 Américains meurent. Ce drame choque l'opinion publique américaine de plus en plus favorable à un engagement militaire contre la puissance centrale. En 1917, l'empereur Guillaume II proclamera la reprise de la guerre sous-marine à outrance et le président Wilson déclarera la guerre à l'Allemagne. On cherche le 7 mai 1948 Congrès européen à La Haye. Sous l'impulsion du Comité international de coordination des mouvements pour l'unité européenne, près de 800 délégués et toutes les tendances politiques européennes se réunissent à La Haye. Quelques représentants du Canada et des États-Unis sont également présents. C'est Winston Churchill qui est chargé de présider le Congrès en septembre 1946 lors d'un discours à Zurich. Ce dernier avait déjà montré son intérêt pour une éventuelle création des États-Unis d'Europe. Ainsi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée d'une unité européenne revient au premier plan et se renforce dans les esprits. Le but du Congrès est de mettre en place une union européenne économique, politique, culturelle et monétaire. De cette réunion naîtra le mouvement européen et le Conseil d'Europe. On termine le 7 mai 1949 l'accord de Rome van Rooyen. L'accord de Rome van Rooyen était un accord conclu entre l'Indonésie et les Pays-Bas le 7 mai 1949. Le nom étant dérivé entre les deux principaux négociateurs lors de la réunion, Mohammad Rome et Jan Herman van Rooyen, le but de la réunion était d'aplanir les questions en suspens avant l'indépendance de l'Indonésie, qui devait être accordée à la conférence de la table ronde à La Haye plus tard cette même année. La principale préoccupation qui en était convenue était la suivante. Premier, force armée indonésienne a cessé toutes les activités de la guérilla. Deuxième, le consentement du gouvernement républicain indonésien pour assister à la conférence de la table ronde. Troisième, restauration du gouvernement républicain indonésien à Yogyakarta. Quatrième, les troupes néerlandaises de cesser toutes les opérations militaires et de libérer tous les prisonniers de la guerre. C'est aujourd'hui, c'était notre l'histoire de ce soir, l'édition du 7 mai 2017. À demain.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Bonsoir tout le monde, on se rencontre encore avec moi dans une bonne émission, la mise au point de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un thème dont le titre est « Le succès de l'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 ». L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture de l'UNESCO a concentré la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 à Jakarta. L'événement qui comprenait des discussions, des colloques, des expositions de photos et du prix de Guillermo Cano a eu lieu du 1er au 4 mai. La commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 a été ouverte par le vice-président Youssef Kala au troisième jour de cette célébration. Dans son discours, Youssef Kala a déclaré que la technologie des médias affectait le développement de la démocratie et le développement d'un pays. Il a expliqué que les conflits au Moyen-Orient étaient influencés par les médias sociaux et la technologie dans les médias affecte la nation entièrement, soit dans le cadre positif et négatif. Les médias contribuent au développement économique durable, la réduction de la pauvreté et l'inégalité. La haute liberté des médias pourrait également conduire aux choses négatives si les médias ne mettent pas en œuvre la censure interne. Par conséquent, le vice-président a demandé aux médias de censurer leur contenu. Puis Youssef Kala espérait que les médias en Indonésie maximisent les avantages de la liberté et des technologies pour le bien commun. Selon lui, les gouvernements de nombreux pays ont besoin de la critique pour garder la direction de la nation. Sans la critique des médias qui représentent le point de vue du public, le gouvernement ne peut pas exécuter une bonne vision pour l'État. Pour garder tout cela, Youssef Kala a engagé les gouvernements pour garantir la sécurité des journalistes et l'absence d'intervention aux médias. Mais d'autre part, il a également demandé aux médias d'être objectifs sur la façon du gouvernement qui mène ses fonctions. Après l'ouverture par le vice-président Youssef Kala, le président Joko Widodo a assisté à la soirée de remise des prix de Guillermo Cano de la liberté de la presse. Dans son discours, le président Joko Widodo a dit que la presse jouait un rôle important dans le cadre de la nation indonésienne. Depuis la réforme, la presse libre et passionnée joue un rôle crucial dans la lutte contre la corruption tout en divertissant toutes les parties. Joko Widodo a dit que l'Indonésie était un pays dont la presse est la plus libre dans le monde. Il a affirmé que la liberté de la presse indonésienne a donné naissance à une nation qui est de plus en plus forte et dynamique. À l'heure actuelle, il y a deux défis auxquels les médias font face. Ce sont les discours de haine et les canulars. Le prix de Guillermo Cano a été donné à un journaliste suédois d'Érythrée, David Isaac. En raison de ses activités en tant que journaliste, Isaac a été arrêté par les autorités érythréennes en 2001. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas son existence. L'acceptation du prix était représentée par la fille de David, Bethlehem Isaac. La commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 a été fermée par la signature de la Déclaration de Jakarta, qui contient 74 points de la Déclaration commune, comme un appel à toutes les parties à maintenir la liberté de la presse. Au moins 1300 journalistes, entrepreneurs des médias et d'autres parties de 40 pays ont assisté à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse à Jakarta. Voilà, chers auditeurs et auditrices, c'est tout la mise au point de la semaine.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs, nous revenons dans le programme Magazine Culturel. Aujourd'hui, on va voyager à Bali. Donc, restez avec nous ici à RRI, Service International, la voix de l'Indonésie. district Badung à Bali est l'un des districts les plus visités par les touristes locaux et étrangères. Il existe plusieurs endroits touristiques comme la plage Kuta, le temple Uluwatu qui est un lieu religieux qui se situe sur une falaise, Sangé qui est un endroit célébré par les forêts naturelles et les singes qui y habitent, et Puri Taman Ayun qui est un parc patrimonial du royaume Mengwi. Puis, il existe aussi 11 villages de tourisme très intéressants dans ce district. L'un de ces villages est Charansari, dont les habitants ont réussi de développer le tourisme et l'agriculture. Ils arrivent à combiner le tourisme vert, la plantation et le centre des produits agricoles. Le village Charansari, qui se trouve au quartier Petan dans le district Badung, a une superficie de 885 hectares. Il est situé à peu près 22 km de la capitale du district Badung et 36 km de la ville d'Enpasar, la capitale de Bali. En visitant Charansari, il y a beaucoup d'activités à choisir, comme le tour à dos d'éléphant, le rafting, le vélo, le trekking à travers des sites naturels, ou vous pouvez faire du produit chocolaterie ou le produit culinaire spécialisé à Charansari. Si vous êtes intéressé à faire le tour sur le dos d'éléphant, vous pouvez faire un tour vers la forêt conservative. Ce sera une expérience inoubliable. Les éléphants d'origine Sumatra sont nourris par les produits agricoles originaux de Charansari comme des herbes et des fruits saisonniers. Comme une région agricole, Badung Utara, surtout le quartier Petan, est riche de la plantation de grains de café et cacao. Ici, vous pouvez étudier tout cela concernant la cultivation jusqu'à la production de cacao, des grains en produits prêts à consommer. Pour participer à cette production, vous pouvez visiter la cuisine de chocolaterie de Pod. Là-bas, les chocolats viennent de la plantation originale de haute qualité de Charansari Petan. Et vous pouvez même produire votre propre produit et les vendre comme en souvenir. Le village d'Aransari est directement bordé par la rivière Ayung. C'est la raison de ne pas manquer à faire le rafting quand vous êtes là. Le rafting dans cette rivière prend de 12 km et 2 demi-heures de duration. Le rafting à Ayung est de niveau 3, qui signifie que c'est approprié pour les débutants. Pendant le rafting, vous allez passer les beaux paysages autour de la rivière. Le plus intéressant dans certains points, vous allez voir des sculptures sur des pierres qui représentent l'histoire de Ramayana. Cette sculpture de 200 mètres de long ont été sculptées par les artistes balinais. Et puis vous allez aussi passer près d'une cascade où vous vous sentirez comme il est encore de pleuvoir. Chers amis, voilà le magazine culturel dont le sujet est le village de tourisme de Charansari. Nous vous reverrons avec des sujets aussi intéressants dans la prochaine édition du magazine culturel. Au revoir.
couleur, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie, je suis ravi de vous revoir dans la rubrique L'Indonésien couleur. Dans cette édition, je vous présente une information sur le vélo en bois. Restez toujours avec nous à www.voi.co.id. Chers auditeurs, la nature offre une variété de possibilités qui peuvent être exploitées par les humains. Didi Diarsa, le diplôme de l'Université d'État de Jakarta du département de géographie, a établi un centre créatif qui apporte les différentes communautés d'époque pour partager des informations, des connaissances et même pour développer des entreprises. Depuis sa création il y a 3 ans, cette plateforme de code a été visitée par plus de 150 000 participants pour développer des applications numériques, la politique, etc. L'un des produits est le vélo en bois. Didier a dit que la nature offrait toujours des avantages et des solutions chez l'homme, en bois de caoutchouc qui sont relativement abondants en Indonésie. Pour profiter des bois caoutchouc vieux, les agriculteurs ont besoin d'une substance pour éliminer la sève qui coûte cher. Donc, le bois de caoutchouc est rarement utilisé comme meuble. Ce bois-ci, qui est ensuite utilisé par Didi et ses collègues dans le code Hoop Créatif. Didi Diarsa a dit que les essais pour les produits de ce vélo en bois durent depuis une année. Didi a complété également ce vélo en bois avec des composants électriques. En plus d'utiliser du bois de caoutchouc, qui n'est pas la plupart du temps traité, le vélo devrait également être une solution à la congestion qui se produit dans les rangs de file en Indonésie. Didi a ajouté que les habitants des villes dans les pays développés utilisaient aujourd'hui le vélo comme le moyen de transport pour des distances de moins de 20 km. L'utilisation du vélo va aussi aider à réduire la pollution. Didi espère que le peuple indonésien a commencé à utiliser des moyens de transport qui ne coûtent pas cher, faciles et respectueux de l'environnement. Chers auditeurs, voilà cette édition de l'Indonésien couleur dont le sujet est les vélos en bois. On se retrouve encore dans la prochaine édition avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs et auditrices de Radio République Indonésie, service international, la voix de l'Indonésie, où que vous soyez. On se retrouve encore dans la rubrique magazine musical, un programme qui vous présente les chansons indonésiennes traditionnelles et modernes. Restez toujours avec nous dans les ondes courtes 925 kHz ou par audio streaming de www.voi.co.id ou par l'application RRI Play dans votre smartphone. Dans cette édition, La Voix de l'Indonésie vous présente un groupe vocal indonésien qui s'appelle Princess. Chers amis, une chanson de Princess qui s'appelle Kekasihku, ou en français Mon Amant, sera là pour commencer notre rencontre aujourd'hui. Bonne écoute. Chers auditeurs, Princess se compose de 5 belles filles. Elles sont Anna Octarina, Elma Agustin, Siti Gayatri, Cindy Hafrestino et Patricia Defina. Ce groupe vocal formé en 2011 est le résultat réalisé par le jeune producteur indonésien Kevin Aprilio. Kevin Aprilio est le fils du ADMS, un chef d'orchestre, pianiste, auteur, compositeur et producteur de musique célèbre en Indonésie. L'élément de la musique qui est souvent entendu dans les chansons de Princess combine le pop, le style théâtre musical de Disney et le style de pop coréen ou K-pop. Même la chanson que vous venez d'écouter était populaire en Corée et au Japon, car le style est bien adapté à ces deux pays. Chers amis, avant de parler plus de Princess, écoutons son autre chanson. Bonne écoute!
To me, yeah, I know it's gonna be the same. Please come back, I don't wanna be so mean. takkan pernah kau mencoba, karena hati ini muda rapuh.
Walau sekuat apapun hatiku, ku tak bisa jauh darimu. Hingga kapan aku bisa terus bersama kamu?
Chers auditeurs, depuis le début de sa carrière, Princess a plusieurs fois changé ses personnels. Premièrement, Princess est composée de Elma, Anna, Rachel, Danita et Alika. Le 1er décembre 2012, Alika a quitté le groupe et elle a été remplacée par Patricia. Ensuite, en mai 2013, Rachel a quitté le groupe avec la même raison comme Alika, c'était de continuer ses études. Puis le groupe a changé encore une fois son membre quand Danita en avait quitté. La dernière formation se compose de Anna, Elma, Gayatri, Cindy et Patricia. Mais, chers amis, malheureusement, le 4 juin 2014, Princess s'est dégagée. Chers auditeurs et auditrices, pour mettre fin à cette édition du magazine musical, écoutons ces chansons ensemble, dont les titres sont « Jangan pergi » ou « Ne pars pas » et « Sarangé, qui est le coréen pour « Je t'aime ». Merci beaucoup de votre présence, bonne écoute et au revoir.
Jangan kau pergi.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Karena hati ini hanya satu, jangan pernah kau mencoba. Karena membosankan, tapi aku mencoba untuk bertahan.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
saja, hanyalah cintamu sayang. Kembalilah ke
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.